La vie est un art.
Avez-vous déjà lu, comme 50 millions de personnes de par le monde, le fameux livre de John Gray « Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus » écrit déjà en 1994, avant l'apparition d'Internet et des téléphones portables? Que garder de ce livre qui est bien sûr très américain au XXIe siècle pour vivre d'une façon plus heureuse ensemble? Comment trouver le juste équilibre entre nos côtés masculins et féminins, car on a chacun un côté masculin et féminin en soi, au sein de son couple et aussi au sein de la société? Paul Devrendre, bonsoir.
Bonsoir, Bénédicte.
Alors, vous êtes celui qui a transmis le message de John Gray en pays francophone avec beaucoup d'empathie, de bienveillance et d'humour à travers, entre autres, vos one-man shows à travers toute la France et la francophonie. One-man shows qui ont été vus par plus de 2 millions de personnes. Et en 2017, vous avez publié chez Michel Lafon un livre intitulé Homme, femme, mode d'emploi, est-ce vraiment nécessaire d'avoir un mode d'emploi pour mieux se connaître et mieux s'aimer entre les hommes et les femmes? Ou peut-être, faut-il mieux dire, entre les femmes et les hommes?
Et les hommes maintenant, tout à fait. Mais je pense que, alors on dit un mode d'emploi, c'est un peu excessif, parce que chaque couple est unique, chaque histoire est unique, donc il n'est pas question de mettre des gens dans des cases ou d'imposer un mode de vie à quiconque. Mais je pense qu'une meilleure compréhension, justement, de, vous le dites très bien, de nos côtés masculins et féminins, peut malgré tout aider à mieux s'entendre dans un couple. Parce que beaucoup d'incompréhensions viennent du fait que, moi je compare ça un peu à des langages, et bien souvent il y en a un qui parle masculin, l'autre qui répond féminin, et on ne se comprend pas quand on parle de langue étrangère. On sait qu'on parle de langue étrangère parce que les mots ne sont pas les mêmes. Quand on parle masculin et féminin, ben les mots sont les mêmes, simplement c'est la signification qu'on donne aux mots qui n'est pas toujours la même. Et on achoppe sur des incompréhensions, sur des frustrations. Alors que si on parlait un petit peu mieux le langage de l'autre, on pourrait plus facilement se comprendre.
Vous donnez des clés pour décoder, et je crois que c'est très important dès le début, effectivement, qu'on sache bien que ça peut paraître un peu caricatural, mais qu'en fait, en nous-mêmes, on a ces deux parties féminines et masculines. Et même, on voit bien dans des couples, par exemple, de personnes qui sont du même sexe, il y a aussi ces incompréhensions.
Tout à fait.
Finalement, on est chacun une terre étrangère pour l'autre.
Ouais. Et moi, je vois ça un peu. En fait, c'est comme les polarités d'un aimant. Il y a le pôle positif et le pôle négatif. Et souvent, en fait, il y a des différences qui divisent, mais il y a aussi des différences qui rassemblent. Et ces différences masculin-féminin, pour moi, sont des différences qui attirent et qui rassemblent, justement, qui permettent de créer une unité, qui permettent de grandir, qui se complète. Et donc, il ne faut pas voir ces différences-là comme un obstacle à la relation et à, justement au bien-être d'être ensemble, au fait d'être ensemble, mais plutôt justement comme une chance. Et c'est vraiment dans ces... Malheureusement, on ne le vit pas toujours comme ça quand on ne comprend pas justement le langage de l'autre, quand on ne se met pas toujours à la place, quand on ne sait pas pourquoi il ou elle a réagi de cette manière-là. Mais quand on comprend certaines petites clés très très simples, ça peut être grandement facilitateur pour une meilleure relation.
Alors, en même, on a la société qui a énormément changé dernièrement. Il y a pas mal, entre autres, d'enfants uniques. Quand on avait des frères et sœurs, on voyait bien la différence entre le masculin et le féminin tout petit, déjà, dans la fratrie, avec les uns et les autres. Aujourd'hui, il y a des personnes qui n'ont jamais eu de frères et sœurs. Est-ce que ça change quelque chose aussi pour cette compréhension, d'après vous?
Oui, à mon avis, il y a plein d'éléments dans la société et l'idée n'est pas du tout d'imposer un mode de société, mais c'est vrai qu'il y a des changements énormes, notamment par exemple par rapport au fait que à l'école maintenant, les petits garçons ne sont plus en contact avec le masculin, parce que déjà les familles monoparentales, le père est déjà, n'est pas là, le plus souvent ce sont des familles monoparentales où ce sont les mères qui sont présentes, même dans les familles où les deux parents sont là, la mère est quand même plus présente, mais surtout dès l'âge de parfois de 6 mois, où les enfants vont à la crèche et puis au maternel et puis à l'école primaire, c'est 98% de femmes qui s'occupent des enfants. Et je pense que c'est pas anodin, parce qu'on entend maintenant beaucoup dans les écoles ou dans les cours de récréation, par exemple, dire que les petits garçons sont hyperactifs, ils sont trop ci, ils sont pas assez là, etc. Parce que je pense qu'ils sont jugés aussi à l'aune justement de ce que les femmes peuvent peut-être imaginer de ce que peut être un enfant. Et donc dire qu'un garçon est hyperactif, peut-être pas, il a juste besoin de bouger, peut-être un petit peu plus parfois que certaines petites filles. Donc effectivement, il y a tout l'environnement dans lequel on est influence évidemment notre jugement.
Oui, et puis on sait aussi que beaucoup dans les écoles aujourd'hui, au niveau de l'éducation, on parle beaucoup des émotions. Alors il y a des émoticônes pour dire les émotions. Or, l'émotion en tant que telle, c'est quand même en général plus féminin d'exprimer son émotion.
Ouais. Et de nouveau, c'est ça, forcer. Alors l'idée n'est pas d'enfermer un petit garçon, à l'empêcher de partager ses émotions s'il le ressent, mais parfois, pourquoi, en quoi est-ce que ce serait mieux ou moins bien parfois de prendre un certain temps pour gérer son émotion tout seul plutôt que d'être obligé de la partager dans la minute où on l'aperçoit. Et donc oui, il y a vraiment une espèce de besoin aujourd'hui de partager son émotion dans l'instant. On dirait que c'est bien. Alors oui, c'est féminin, mais il faudrait peut-être essayer d'arrêter les jugements de valeur justement. C'est pas bien ou mal. C'est comprendre un peu un fonctionnement différent et accepter en fait que chacun puisse se développer de la manière dont il le souhaite.
Alors justement, dans ce que vous faisiez avant, dans les spectacles, etc., qui ont déjà certaines années, certains spectacles, mais vous en faites des nouveaux à chaque fois en écoutant comment la société évolue. Parlez par exemple d'un homme qui rentre du travail et qui va peut-être dire d'abord bonjour à son chien qui court plus vite qu'à son épouse. Ouais. Alors moi, ça me fait sourire aujourd'hui parce qu'en fait, souvent, quelquefois, c'est les hommes qui rentrent plus tôt du travail et c'est les femmes qui rentrent plus tard. En fait, il y a un changement de société qui est tel que... Est-ce que vous changez un peu votre discours aussi dans la façon de parler? Comment vous faites?
Ce qui se passe, c'est que l'idée n'est pas du tout de nouveau de mettre des gens dans des cases ou de décrire ce que sont les hommes ou ce que sont les femmes, mais plutôt de comprendre un fonctionnement qui n'est pas toujours le sien. Et quand je prends l'exemple effectivement, du mari qui dit d'abord bonjour au chien, c'est pour expliquer le côté séquentiel masculin qui a tendance à arriver, il dit bonjour dans l'ordre d'arrivée de ce qui lui vient, alors que le féminin, lui, a besoin de petites attentions pour se sentir aimé. Alors ça, c'est vrai même quand elle rentre plus tard, elle a toujours besoin de petites attentions, simplement la petite attention ne va pas être effectivement de lui dire d'abord bonjour, mais ça va être d'avoir peut-être préparé le repas avant, de s'être occupé des enfants, d'avoir fait des petites tâches ménagères, d'avoir pris une initiative. Donc le fondement reste le même, à mon sens, ce besoin de petites attentions, tout reste toujours, est intemporel à mon avis et universel, mais effectivement la manière, les petites attentions ne sont plus toujours les mêmes, évidemment en fonction des modes de vie de chacun.
Ou peut-être que quand elle arrive, elle attend que son mari arrête ce qu'il est en train de faire,
par exemple
de préparer le dîner, pour aller l'embrasser.
Exactement.
Voilà. Alors que lui, il a envie peut-être de finir ce qu'il est en train de faire.
Ouais, c'est ça.
Et pourquoi? Comment ça marche?
Mais parce que ce côté masculin a tendance à être séquentiel. Lui, il veut aller au bout de sa tâche. Le côté féminin est plutôt multitâche, justement. Il fait plein de choses en même temps. Et le masculin peut être emporté par son envie de finir, d'atteindre son objectif qui est plus fort que d'aller dire bonjour à sa partenaire. Moi, je sais que notamment, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre parce que le fait qu'on a commencé à travailler à la maison, etc., quand j'ai commencé à écrire, ça a été quelque chose qui était important pour moi, justement, de comprendre ce que c'était important que je m'arrête quand Corinne rentrait, que je m'arrête 2 minutes et que j'aille justement prendre les paquets dans la voiture ou dire bonjour quand elle arrivait, etc. J'avais tendance à dire, moi je travaille donc ici, donc il faut me laisser, je suis concentré, je ne peux pas me disperser. Quoi. Et donc c'est là tout cet équilibre à trouver en fonction justement des situations dans lesquelles on est. Mais quand on travaille à la maison, par exemple, c'est plus compliqué d'être monotâche.
Parce que l'homme est plus monotâche, d'après
l'homme vous. L'homme est vraiment beaucoup plus séquentiel. On peut le voir de manière très simple. Hein. Il suffit de regarder un homme qui fait la cuisine, il aura tendance à rester debout devant l'eau des pâtes en attendant qu'elle boue. Il pense peut-être que ça va faire bouillir plus vite. Alors qu'effectivement, le féminin, elle met de l'eau et en même temps, elle va s'occuper des enfants, elle va préparer ses réunions du lendemain, voir ses mails et consulter ses mails et téléphoner à ses copines et puis elle revient, il n'y a plus d'eau. Non, j'exagère.
Alors vous parlez de téléphoner à ses copines, mais ça c'est quelque chose qui a même, la femme a besoin de s'exprimer. Oui. Bon, bien sûr, on ne fait pas de généralité, on revient bien sûr.
Mais c'est un besoin.
Vraiment, téléphoner, vous dites dans votre livre aussi le truc classique, téléphoner à sa belle-mère, par exemple, à sa propre
mère,
je veux dire. Ça, c'est quelque chose que vous sentez que les hommes ont moins besoin de s'exprimer?
Je pense que le masculin, lui, se définit avant tout par sa compétence à faire les choses, alors que le féminin se définit, lui, plutôt par le fait d'être bien ensemble. En fait, si la vie était un voyage, pour moi, on pourrait dire que le masculin se préoccupe de la destination et des moyens à mettre en œuvre pour y arriver dans les plus brefs délais, alors que le féminin s'intéresse au bien-être de tous pendant le trajet. On voit à quel point le masculin seul ne sert à rien. Parce que quel est l'intérêt de traverser les océans les plus vastes si tout le monde quitte le navire en cours de route et qu'à l'arrivée, il n'y a plus personne avec qui célébrer la victoire? Mais on voit bien aussi que le féminin seul n'est pas la solution, parce qu'être ensemble, c'est bien, mais pour faire quoi et pour aller où? Et c'est là où on voit à quel point c'est un équilibre entre ce masculin et le féminin qui est important. On le voit aussi dans nos entreprises aujourd'hui, on voit à quel point, quand on est juste dans cette logique financière du succès, de l'objectif à atteindre à tout prix, avec la politique de la terre brûlée autour de soi, ça n'a plus aucun intérêt, on ne veut plus ça, uniquement ça. Mais d'être basculé complètement dans le féminin, qui n'est que, c'est bien les émotions et tout, mais sans savoir où on va, c'est peut-être un petit peu court aussi.
Vous avez parlé du mot compétition. Et aujourd'hui, il y a aussi un problème. On sait qu'il y a beaucoup plus de femmes qui sont diplômées, entre autres universitaires, etc., que d'hommes. Et qu'on trouve de plus en plus de femmes intellectuelles qui n'arrivent pas à se marier aussi. Comment vous expliquez ça? Parce qu'il y a une compétition, justement?
Il y a plein de choses, mais je crois qu'en fait, la société de laquelle on sort aujourd'hui, mais en tout cas depuis quelques années, depuis les années 70, en fait, on vivait dans un monde, effectivement, dans le monde professionnel, à forte dominance masculine. C'est une organisation, depuis la révolution industrielle, qui était faite par des hommes pour des hommes. Il n'y avait personne pour le dire qu'on pouvait faire autrement, donc pour eux, ils se sont mis d'accord entre eux, naturellement, de fonctionner en fonction de leur mode naturel de fonctionnement. Et puis, dans les années 50, quelques femmes ont commencé à être un peu agacées d'être considérées comme inférieures et tout ça. Ils se sont battues pour montrer qu'elles étaient l'égale des hommes. Mais elles ne pouvaient le faire qu'en jouant à l'extérieur, en montrant qu'elles étaient aussi capables que les hommes d'être masculines. Et c'est comme ça que, pour être respectées dans le monde professionnel masculin, elles ont dû devenir plus masculines dans leur manière de faire et de fonctionner. Certaines femmes l'ont fait avec un certain succès. Je pense notamment à Margaret Thatcher, qui est une des premières figures dans les années 70 à obtenir des postes de responsabilité importants. Mais le problème, c'est que c'est que c'était peut-être une femme, mais il n'y avait pas grand-chose de féminin dans sa manière d'être, de se comporter. Ce n'est pas du tout une critique, c'est juste un fait. C'est que si elle n'avait pas été comme ça, elle ne serait jamais arrivée là où elle était. Grâce à ces femmes pionnières, mon idée, c'est qu'effectivement, l'idée d'égalité entre hommes et femmes a pu avancer un petit peu. Et aujourd'hui, cette égalité entre hommes et femmes, j'espère qu'elle est acquise. Je sais qu'il y a encore beaucoup de boulot, mais au moins l'idée générale de se dire qu'on est égaux est assez répandue maintenant, globalement. Et je pense qu'on peut aujourd'hui aller un petit peu plus loin. C'est mon idée, mon combat, c'est qu'on peut reconnaître aujourd'hui qu'on peut être égaux et différents. En fait, dans un premier temps, pour être égaux, il fallait montrer qu'on était semblables. Maintenant qu'on sait qu'on est égaux, on peut peut-être aller un petit peu plus loin, faire un pas en avant et montrer que ce n'est pas en étant semblables qu'on va vraiment se développer, mais en respectant nos différences. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes, en fait, dans les années 70, beaucoup de femmes ont dû se battre pour devenir comme des hommes, pour être respectées dans le monde professionnel masculin. Un peu comme... Mais le problème, c'est qu'on n'a jamais vraiment remis en cause le principe même de cette soi-disant supériorité masculine. Un peu comme si, en fait, pour combattre le racisme, les Noirs avaient cherché à devenir blancs. Et ici, je pense que moi, mon combat, c'est non, respectons le féminin dans ce qu'il est. Ne poussons plus les femmes à devoir se comporter comme des hommes pour être respectées dans l'entreprise. Et donc, c'est là aussi, au niveau propre personnel, beaucoup de femmes masculines ont des difficultés effectivement dans leur vie personnelle parce qu'une femme masculine n'est pas spécialement attirante pour un homme masculin, parce que du masculin à masculin, ça ne marche pas. Donc, elles ne sont plus attirées plutôt que par des hommes plus féminins. Et c'est vrai qu'il y a une tendance à des hommes plus féminins. Mais quand un homme est trop féminin, ça ne les attire pas non plus parce que ça fait un gosse de plus à la maison. Et elles ont aussi envie de pouvoir s'appuyer sur une épaule. C'est un gros cliché, mais ça reste encore quelque chose qui est très demandé.
Oui, Paul Devrande, mais en même temps, vous avez des femmes qui peuvent avoir des métiers très féminins. Par exemple, être médecin, c'est très féminin aussi. Mm-hmm. L'attention à l'autre, le care, etc. Mm-hmm. Et malheureusement, autour d'elles, elles ne trouvent pas à se marier. On voit beaucoup de célibataires qui ont de hautes fonctions, qui aimeraient, entre guillemets, se caser. Mm-hmm. Et elles ont en face d'eux des hommes qui préfèrent, entre guillemets, j'allais dire, je caricature moi aussi, dominer.
Il y a des vrais enjeux. L'idée, c'est, je pense qu'il y a une vraie différence entre dominer et être protecteur. Je pense qu'être protecteur, en fait, c'est d'être attentif aux besoins de son partenaire, mais dans l'intérêt de celui-ci. Dominer, c'est vouloir le soumettre à ses propres désirs, ce qui n'a absolument rien à voir. Je pense qu'on confond trop souvent la domination et la protection. Je pense que, fondamentalement, le masculin a envie d'être le prince charmant de sa princesse, mais il n'a pas envie de devenir le chevalier servant de sa reine. La frontière est fine là-dedans, mais elle est importante. J'ai le sentiment qu'une femme a d'autant plus besoin de pouvoir être féminine dans sa vie personnelle qu'elle est déjà masculine dans sa vie professionnelle. Parce que si elle est déjà masculine dans sa vie professionnelle, mais qu'en plus le soir on lui remet une couche, ça devient très compliqué. Mais de comprendre cette bascule, ce besoin de basculement-là, alors que justement qu'elle dirige plein de monde et qu'elle est admirée de plein de monde et tout ça, et puis de redevenir, s'appuyer sur l'épaule de ce partenaire, c'est vrai que ça demande, pour ce partenaire-là, ça lui demande déjà d'avoir une énorme confiance en lui, que beaucoup d'hommes n'ont peut-être pas suffisamment. Et là devient, à mon avis, le besoin de domination masculine, c'est un manque de confiance en soi, où on veut soumettre l'autre parce qu'on n'a pas tellement confiance au fond de soi. Et donc là, c'est un travail qui est très très important, ça c'est aussi dans le bouquin, c'est quelque chose qui est fondamental pour moi, c'est de comprendre en fait les différents réservoirs d'amour, que l'amour que l'on échange avec un conjoint n'a rien à voir avec l'amour qu'on a pour soi. Et si on ne s'aime pas suffisamment soi-même, ça va être très difficile d'aimer l'autre, évidemment.
Vous dites qu'il y a quelque chose qui vous touche en ce moment spécialement, c'est de voir qu'on n'est pas le même selon là où on est et que les relations peuvent être différentes, qu'il y a des réservoirs d'amour ailleurs. C'est quoi exactement ?
Bien, Au début, quand on est amoureux, on a l'impression que l'autre va être celui ou celle qui va nous apporter tout l'amour dont on a besoin. On pourrait dire, on peut être à deux, on pourrait vivre sur une île déserte. Maintenant qu'il est là, maintenant qu'elle est là, le monde peut s'écrouler, je vais être heureux jusqu'à la fin de ma vie avec cette personne-là, c'est elle ou lui qui va m'apporter tout ce dont j'ai besoin. On voit bien avec le temps que ce réservoir va consommer un peu d'autres, ce réservoir-là. Et ça peut nous aider à prendre conscience qu'en fait, à côté de ce réservoir que j'appelle réservoir d'amour d'un conjoint, cet amour qu'on échange avec quelqu'un, il y a un autre réservoir qui est fondamental pour moi, c'est le réservoir d'amour ou d'estime de soi. On confond trop souvent, à mon avis, l'amour et l'estime de soi avec de l'égoïsme et de l'orgueil. On imagine que s'aimer soi-même, ça voudrait dire se croire supérieur aux autres, ou s'aimer soi-même, ça voudrait dire prendre tout pour soi et ne rien laisser aux autres. Pour moi, ça n'a rien à voir avec ça. En fait, la plus belle définition que j'ai de l'amour de soi, c'est tout simplement être capable de s'accepter tel que l'on est.
S'accepter, humblement.
Voilà. Donc, s'accepter dans nos grandeurs, dans toutes nos richesses, dans tous les talents que l'on a, et s'accepter aussi dans ses limites actuelles. Or, beaucoup de gens refusent de s'accepter tel qu'ils sont parce qu'ils se disent « moi, je m'aimerai quand j'aurai gagné $1 million » ou « je m'aimerai quand j'aurai trouvé l'homme ou la femme idéale, je m'aimerai quand mes enfants auront fait telle ou telle belle étude, mais maintenant, on regarde comment je suis, je ne peux pas m'aimer comme ça. » Et là, on confond alors là l'acceptation et la résignation. En fait, s'accepter tel que l'on est ne veut pas dire se résigner à rester comme ça. C'est au contraire la première étape vers l'évolution. Parce que tant que je ne m'accepte pas, c'est ça qui risque de me laisser dans ce que je n'aime pas. En fait, ce réservoir d'estime de soi, moi, c'est un réservoir qui se remplit de l'intérieur. Or, en fait, beaucoup de gens essayent de remplir ce réservoir de l'extérieur, justement par l'admiration des autres. Regardez la belle voiture que j'ai, regardez le salaire que je gagne, regardez ce que j'ai fait de merveilleux, etc. Aimez-moi, aimez-moi, aimez-moi. Comme je ne suis pas capable de m'aimer moi-même, j'ai besoin de ce regard positif des autres qui va me remplir un petit peu, qui va me soulager un certain temps. Et le problème, c'est que quand on fait ça, il y a des trous dans le fond du réservoir et ça n'arrête pas de couler. Et quand on fait un petit travail de soudure, là, alors, je peux remplir le réservoir de l'intérieur. Quand je m'accepte tel que je suis, quand je vois le potentiel que je peux avoir, quand je vois tout ce que je peux donner au monde, mais justement c'est ça qui remplit ce réservoir de l'intérieur, et une fois que ce réservoir est rempli, il peut alors déborder. Et en fait, je ne peux pas donner ce que je n'ai pas. Il faut que j'aie avoir de l'amour en soi pour en donner aux autres. Et c'est comme ça qu'on voit des personnes qui rayonnent, mais ce sont des personnes qui ont suffisamment d'amour en eux pour pouvoir en donner. Et dans un couple, c'est fondamental de faire cette distinction-là, à mon sens, parce que je ne suis pas là pour remplir le réservoir d'estime de soi de mon conjoint. Les petites attentions, tout ce dont on parlait tout à l'heure, mais ça, c'est des petites attentions qu'on peut avoir, le respect que l'on peut avoir pour son conjoint, mais dans le réservoir conjoint. Mais ce n'est pas ça qui va nourrir ce réservoir estime de soi.
En gros, l'autre, ce n'est pas votre Dieu.
L'autre, ce n'est pas notre Dieu, non, non.
Il ne vous comblera pas totalement.
Non. Et justement, la meilleure chose que je puisse, la meilleure manière d'être bien avec l'autre, c'est d'abord d'être bien aussi avec soi-même, évidemment.
Alors, acceptation de soi, estime de soi, est-ce que ce n'est pas un petit peu plus aussi ce qu'on vit aussi dans l'amitié, en fait? On sait que l'autre n'est pas tout pour soi, et on donne le meilleur à l'autre aussi, et on a une vie personnelle à côté.
En fait, moi, l'idée, c'est qu'il y a cet réservoir d'amour, que je le conçois ou je le visualise, en tout cas, ça m'a aidé, cette image-là. Il y a le réservoir du conjoint, le réservoir d'estime de soi, il y a le réservoir spirituel aussi, ou divin, il y a le réservoir d'amour des gens du même sexe, les réservoirs d'amour de la famille, le réservoir d'amour de nos enfants, qui n'a rien à voir non plus, et puis le réservoir d'amour de la contribution, d'avoir un sentiment de participer à quelque chose de plus grand que nous, d'une idée, d'un projet. Vous voyez, à la radio, j'imagine que vous êtes aussi dans cette idée de partager des choses, ça va au-delà de notre personne, c'est des choses qu'on a envie de partager, notre petite pierre que l'on met à l'édifice pour que le monde aille un petit peu mieux. Et donc, c'est un équilibre à trouver, vous voyez, entre tous ces réservoirs. Mais c'est vrai que le réservoir de l'amitié est aussi quelque chose qui est très, très important. Et la différence entre l'amitié et l'amour est fine. Ce que j'espère, en tout cas, c'est que pour beaucoup, leur meilleur ami est leur conjoint. Ça passe d'abord par ça. Déjà, une vraie amitié entre conjoints, c'est fondamental.
Alors là, vous dites une chose extrêmement importante, parce qu'aujourd'hui, si on lit les médias, si on regarde, tout est mis sur l'amour, plus homme-femme ou relations sexuelles, etc. Et on a l'impression que si on n'a pas ça, on n'est pas un homme ou une femme entière.
Il y a une pression énorme par rapport à ça. Ça me faisait rigoler il y a quelques mois ou quelques années. C'était la couverture de l'Express, je pense, qui disait « sexe, le retour des sentiments ». Comme c'était une nouveauté, un truc incroyable, justement. La relation sexuelle, pour moi, c'était un magnifique aboutissement. Aussi, justement, quand les sentiments amoureux sont là, quand on est proche et justement, quand on peut construire cette relation sexuelle sur tout un vécu, c'est magnifique. Mais si c'est juste une fin en soi, quand on est jeune, etc., évidemment, ça change. Hein, mais oui, c'est pour moi plutôt un aboutissement d'une construction qu'on a faite.
Donc, d'après ce que vous dites, ça réhabilite les célibataires aussi.
Mais oui, parce que pour moi, tu vois, avec tous ces réservoirs-là, le réservoir d'amour d'un conjoint, c'est peut-être la cerise sur le gâteau, mais c'est absolument pas l'alpha et l'oméga du bonheur. Il y a tout à fait moyen de... Alors, c'est chouette d'être en couple, mais ce qui est assez marrant, justement, aujourd'hui, c'est qu'on voit à quel point il est parfois difficile de vivre à deux, mais on voit en fonction du succès aussi des sites de rencontres que vivre seul n'est pas toujours facile. Et on dit parfois, vaut mieux vivre seul que mal accompagné. Oui, évidemment, mais il ne faut peut-être pas spécialement devoir choisir la peste contre le choléra. Ça peut aussi être chouette d'être bien accompagné, c'est ça tout le principe. Mais il vaut mieux effectivement être d'abord bien seul avant de trouver un partenaire. C'est à mon avis, les meilleures chances de trouver le bon partenaire, c'est d'être d'abord bien soi-même.
Un grand merci Paul Devendre. Nous nous retrouvons bien sûr avec joie la fois prochaine pour continuer cette conversation passionnante sur hommes et femmes, mode d'emploi.